Écoutez, écoutez bien.
C'est Bruit de fond avec Thomas Capron.
Ah, c'est bon, j'aurais dû. Je sais pas si j'ai des paroles de fond. Car du Kosovo.
Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Yves. Après avoir suivi une formation de logisticien humanitaire en France, il se rend au Kosovo en janvier 2000, juste après la guerre. Sur place, les expatriés et les Kosovars collaborent au sein de plusieurs ONG travaillant à la reconstruction du pays sous la surveillance des troupes étrangères. Afin de mener à bien ses propres objectifs et aussi ceux de l'association Solidarité qu'il emploie, Jean-Yves devra agir avec beaucoup de diplomatie car la population est encore fraîchement meurtrie par la guerre. L'urgence d'abord est de leur redonner un toit.
M'occupant de la reconstruction de l'habitat, je tournais beaucoup dans les villages pour voir un peu les besoins. Avant, les problèmes de reconstruction, c'était d'abord des problèmes de réhabilitation. Donc le but, c'était de fermer une pièce avec des fenêtres en plastique dans un premier temps, une porte en contreplaqué, une bâche dans le toit et un poêle à bois pour que les familles passent l'hiver au chaud. Enfin, pas au froid en tout cas. Donc une maison qui avait été bombardée, généralement, il n'y avait plus rien à faire. Mais les 4/5 des maisons détruites, en fait, étaient détruites par le feu. C'est-à-dire que les soldats serbes, en quittant les villages, incendiaient les villages. Donc ces maisons-là, souvent, n'étaient pas trop touchées. Il y avait des planchers qui avaient brûlé, la toiture. Mais il y avait une structure de mur qui était encore correcte. Donc les premiers programmes, on mettait une bâche plastique aux fenêtres, aux portes, etc.
Donc en fait, les premiers contacts, en fait, ça a été quoi? Ça a été surtout l'équipe avec laquelle tu travaillais, pas vraiment la population, quoi.
Enfin, les premiers que j'ai vus, évidemment, oui, c'était les employés. Donc on avait des architectes albanais, des chauffeurs et
tout ça, c'était des gens
des locaux, des albanais, enfin albanais du Kosovo.
Ah oui, ça c'était.
Quand je dis albanais, de toute façon, c'est des gens du Kosovo qui parlent albanais. Donc en fait, on gérait des programmes menés par l'ONG, l'ONG Solidarité. Et pour nous aider dans ces tâches-là, on employait des Albanais. Il y en a qui venaient là juste pour travailler, pour avoir de l'argent. D'autres qui étaient conscients que bah, c'était une façon pour eux de pouvoir reconstruire leur pays. Enfin, Donc bah, il fallait gérer. Sur l'ensemble de la mission, on avait 180 employés locaux. Ce qui est énorme dans ce style de mission. Je crois qu'au Kosovo, on était l'ONG qui avait le plus d'employés. Par le nombre d'expatriés sur une mission... et par le nombre d'employés locaux. Donc, nous, pour la réhabilitation, on avait une trentaine d'employés directs, qui étaient des architectes, les chauffeurs de nos véhicules, l'interprète. Et nous, le rôle des expatriés, c'était de superviser, et puis de surveiller aussi un petit peu ce qui était fait, pour pas qu'il y ait d'abus. Ça, dans la mesure de ce qu'on pouvait, parce que c'est pas toujours évident.
Pas évident en humanitaire, à qui donner et comment, c'est une mission difficile pour les ONG, c'est aussi une mission difficile pour Jean-Yves, qui doit rester vigilant sur le terrain et se montrer digne de la confiance des Kosovars. Les habitants revivent, leurs maisons se reconstruisent petit à petit, et l'économie, elle aussi, se relance.
Est-ce qu'il y avait des commerces? Est-ce qu'il y avait des...
Très peu, t'avais quelques épiceries, oui. Après, si, c'est étonnant, ça, quand même, les pays du tiers-monde, les pays en guerre, enfin, en post-guerre, la capacité qu'ont les gens à réorganiser des commerces parallèles, enfin...
En fait, la première chose qui se remet en place, vraiment tout de suite, c'est le commerce, quoi.
Ben oui, parce que de toute façon, c'est vital. Il faut manger, t'as un minimum d'équipement à acheter, il faut des bougies pour éclairer parce que t'as pas d'électricité, enfin il faut tous ces trucs là donc enfin ouais, parce qu'il y a très peu de magasins, mais t'arrives quand même à pouvoir trouver des télés, des CD, bon, les CD c'est des copiés, enfin c'est du piratage. T'as toujours même après une guerre, même après n'importe quelle catastrophe, des gens qui ont réussi à sauver un peu d'argent, très vite ils vont dans les pays limitrophes, achètent du stock, alors tout ce qui tient dans une voiture, et puis après ils ont de quoi s'acheter une petite camionnette, ils remplissent la camionnette, et puis très vite ils font de l'argent comme ça. Mmh. Et ces gars-là, très vite, en ayant un peu d'argent, ils vont acheter des matériaux de reconstruction, parce que là il y a un bon filon. Parce qu'en plus, c'est bien payé, parce que tu as les ONG qui ont de l'argent, qui achètent les matériaux. Donc très vite, tout le monde se lance dans les matériaux, dans l'essence, parce que l'essence c'est vital. Très vite, tu as des stations service qui fleurissent de partout. Alors, les stations service, là par contre, c'est contrôlé par la mafia, c'est assez hallucinant. Et donc, après, ces gens-là, ben, petit à petit, le mec il va en plus ouvrir un restaurant, etc. Parce que les expatriés mangent au restaurant régulièrement. Et puis après, mangent au restaurant aussi tous ceux qui ont des stations service parce qu'ils ont de l'argent. Enfin, c'est très vite, tu aperçois que tu as une économie comme ça qui se remet en route. À deux vitesses, parce que t'as quelques gens qui sont dans ce move-là, puis à côté de ça, t'as la population où t'as encore 90% des gens qui sont au chômage, enfin, qui eux ne touchent rien d'autre que les aides, ou qui arrivent à faire des petits boulots, mais en tâcheron, quoi, à la journée.
D'un Kosovo, l'autre. De Bertrand-Marie Flourez. Kosovo, automne-hiver 1999-2000. Extrait de notes du carnet, prise dehors, et du cahier, écrite le soir, pour tenter de comprendre. Note du carnet. Rendez-vous avec le responsable de la police de l'ONU. Le pays est aux mains des mafias. Trafiquants tout genre. Cigarettes, que des enfants vendent dans les rues. Armes, drogues, voitures, et la prostitution qui redémarre. Une psychose d'enlèvement commence à voir le jour. Et pas seulement envers les jeunes femmes, mais aussi envers les enfants. Puisqu'il y a des trafics d'organes, et tous ces règlements de comptes personnels et criminels que les gens veulent mettre sur le compte de leur guerre. De ce que j'en sais, ça rappelle un peu la libération chez nous, après la guerre, où les gens s'accusaient de collaboration pour régler des comptes personnels. Ce sont les plus malins qui s'en sortent le mieux. Il y a aussi tous les profiteurs, bien sûr, et eux, ils ont intérêt à ce que les choses durent ainsi. Les loyers sont délirants pour le pays. Mais comme il faut bien que le personnel de l'ONU et des ONG se loge.
Ensuite, t'as des ONG, religieuses. Alors, on était dans une zone musulmane, le Kosovo c'est musulman, il y a une minorité catholique chez les Albanais et ensuite une minorité orthodoxe chez les Serbes. Bon, quand tu as des combats entre les ONG catholiques et les ONG musulmanes, quand tu dis que c'est un peu dommage. Quand tu as les ONG catholiques qui reconstruisent juste pour les catholiques, les musulmanes qui reconstruisent juste pour les musulmans, t'as un qui distribue les Bibles, l'autre qui distribue le Coran. Les ONG d'Arabie Saoudite qui venaient reconstruire les mosquées en premier avant de reconstruire les maisons, les catholiques qui reconstruisent les églises avant les maisons. Dans un pays où t'as 50% de chômage, quand on te propose 50 Deutschmark par mois pour porter le voile,
ah ouais.
À partir du moment où tu dépends pas d'un État, tu es une ONG, donc après tu fais ce que tu veux. Et rien t'empêche en tant qu'association, loi 1901, de promouvoir telle ou telle religion. Et puis si t'es financé par une grosse religion qui a beaucoup d'argent.
Ouais, ouais.
C'est des ONG, beaucoup d'ONG musulmanes d'Arabie Saoudite, et qui sont financées par des mouvances islamistes. Après, t'as des ONG catholiques intégristes. Alors, ces ONG-là, eux, ne marchent pas par fonds, par bailleurs de fonds, ils ont leurs fonds propres.
Ça représente quoi, 5-6% des...
Non, même pas. T'as une ou deux ONG comme ça, qui sont très puissantes, qui ont énormément d'argent. Parce que La frontière entre la chrétienté et la religion musulmane, elle est là. C'est les Balkans. C'est l'ancien empire ottoman. Sous l'empire ottoman, le Kosovo était sous domination turque. Et ils ont pris la religion du pays qui les dominait. Et donc, la limite entre Occident et Orient, c'est ce niveau-là. Donc, si les musulmans peuvent asseoir un peu plus leur religion au Kosovo, pour forcer au niveau de la frontière, ils le font. Si les catholiques peuvent gagner un peu de terrain pour se rapprocher encore un peu plus de la Turquie, bah, ils vont essayer de le faire. Alors, C'est une ONG dans chaque camp qui va faire ça. Mais c'est des ONG qui ont un fric monstre. Mais après, quand tu t'aperçois que des villages où où les gens habitent encore dans des ruines, et puis que t'as des mosquées toutes neuves, tu dis, attends, là, il y a peut-être un problème quelque part. Là. Tu dis, qu'est-ce que tu viens aider, là, d'abord aussi. Quand dans un village, t'as 25% de catholiques, t'as quelques villages mixtes comme ça, et puis ça se passait assez bien, hein, généralement, j'espère que ça continuera, 75% musulmans, t'as une ONG catholique qui vient, qui retape les 25% des maisons catholiques. Et à côté, les autres continuent d'être dans... Tu dis, non, là, il y a un problème, c'est...
Ça attise un peu les convoitises.
Bah attends, si tu veux ta maison, t'as qu'à te convertir. Hein. On va pas tout te donner comme ça. Hein. Alors, ça attise les haines. Alors, dans des pays où il n'y a pas besoin, quoi. Il y a suffisamment de trucs latents pour... Alors ça, nous, à chaque fois, enfin, on essayait de... On gueulait là-dessus, quoi. Quand il y avait toutes les semaines, on avait une réunion avec tous les membres d'ONG qui voulaient participer à ces réunions pour avoir un semblant de coordination. Donc chaque ONG étant libre de participer ou pas, puis de participer à cette coordination. Mais ça permettait de savoir ce qui se faisait, puis d'éviter des doublons sur les actions menées, quoi. Alors ces ONG-là, en fait, n'étaient jamais, ne venaient jamais là-dedans. Elles étaient complètement à part. J'ai pas été confronté aux gens de l'ONG. Par contre, quand tu arrives dans le village où il y avait 25% de catholiques, puis tu viens faire les évaluations, puis t'as que les 80%, enfin les 75% de musulmans qui vivent dans les ruines, eux font la gueule. Et puis il faut que tu leur expliques que bon, toi t'es occidental, t'es catholique, parce que de toute façon on te demande quand même que tu sois pratiquant ou pas. Enfin, t'es athée catholique ou athée musulman, mais c'est quand même quelque chose. Donc il faut quand même que tu leur expliques que toi t'as rien à voir avec l'ONG qui a reconstruit les 25% de maisons pour les catholiques. Et que toi, ton ONG, elle bosse pour tout le monde, quelle que soit sa religion.
Après le Lacrimosa du Requiem de Mozart, j'ai tant aimé chanter, polyphonie en albanais, de l'ensemble Vranisht. Vous écoutez Bruit de fond sur HDR et nous retrouvons Jean-Yves qui nous rapporte ses souvenirs du Kosovo.
Oui.
Donc ça, c'est quoi, en fait, c'est...
Donc, alors, ça, c'est deux superbes... pas des diplômes, mais des... Enfin, ça a la forme d'un diplôme pour me remercier de l'action menée sur, pour la, la reconstruction de l'habitat dans le, la région de Dechan.
C'est quoi comme langue, ça?
C'est du... Ça, c'est du, de l'albanais. Falemenderoim per contributim e zene ze per bashke punim ne rindertimin ze shtriimin i tchutetarav te keke se te tchani. C'est bien, en gros.
Et qu'est-ce qu'il y a encore?
Donc, bon, ça, c'était... le papier, la petite carte officielle qui nous permettait de montrer quand on passait les checkpoints, donc avec notre nom, la fonction, etc. Et derrière, avec la traduction, enfin un petit mot expliquant qu'on faisait partie d'une ONG, donc on ne devait pas être ennuyé. Et donc c'est marqué en anglais, langue internationale qui devait être comprise par tout le monde, en serbe et en albanais. Et c'était écrit en serbe puisque... le Kosovo, jusqu'à présent, c'est toujours serbe, c'est une province de Serbie. Parce qu'on rentrait, puisque c'était l'armée occidentale qui était au Kosovo, donc on pouvait rentrer comme on voulait. Mais on était sur une terre serbe et on n'avait aucun visa pour être en Serbie. Donc ça, c'est le truc utile, quoi, tu vois, pour apprendre l'albanais. Et après, tu peux parler albanais partout où tu veux. Merdita, bonjour. C'est une sorte de méthode assimile, quoi. Bon, puis après, c'est des conneries. C'est... Évidemment, tu gardes des trucs d'avion.
Billets d'avion.
Ça, c'est une carte mission de Kosovo. OSCE.
Un de nos bailleurs de fonds. Donc l'OSCE, c'est l'Europe. Quoi. C'est... Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est pareil, là, c'est OFDA. C'est un peu la même chose, mais chez les Américains. Donc c'est eux qui nous financent aussi.
Et ça c'est quoi, c'est le...
Alors ça, c'est le chapeau traditionnel albanais. C'est chapeau calimero. Donc,
on dirait
coquille d'œuf,
demi coquille d'œuf en feutre blanc.
En feutre blanc. Donc déjà, c'est très saillant, confortable. Et donc, quand il pleut, ils ont tous un sac plastique par-dessus leur chapeau. C'est assez top. Pas mal.
Et ils le portent tous, quasiment.
Dans les villages, ouais, tous les violons. Les jeunes commencent à bien aimer tout ce qui est occidental, casquette Reebok, machin. D'accord.
Bah, si t'as eu un cadeau de départ, un chapeau, là, c'était...
J'étais assez bien perçu parmi les employés. Quoi. À partir du moment où je côtoie des gens qui parlent une langue étrangère, j'aime bien pouvoir communiquer. Enfin, même si je peux pas entièrement parler, mais le fait d'avoir fait l'effort de parler quelques mots dans leur langue, ça établit une autre relation. Avec la population et même avec les employés. Surtout une langue comme ça, entre guillemets, inutile. C'est-à-dire qu'un occidental qui parle l'albanais, ça va pas lui servir beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc le fait d'apprendre une langue comme ça, c'est purement gratuit. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément, quoi. Allez, donc la mission se terminait, donc de toute façon, donc je devais repartir. Donc ce que j'avais prévu, c'était de revenir un petit peu dans le coin pour revoir la famille, les amis, toujours garder le contact. Et donc au début, je pensais un petit peu repartir en mission. Par contre, je désirais passer les permis poids lourds avant de repartir pour entre deux missions, de temps en temps, faire une mission de convoyage. Style porter des camions en Afghanistan, traverser tout le Caucase, machin. Mais j'étais partant. Et donc, j'ai atterri à Dieppe, puisqu'il y avait une formation ici. Donc, c'est une formation qui dure 5 mois pour les permis. Et au cours de ces 5 mois, j'ai chanté comme j'aimais le chant. Et la musique classique, je connaissais parce que mes parents écoutaient ça, mais j'ai vraiment découvert au Kosovo, en fait, la musique classique. Parce que quand tu vis au milieu des ruines, écouter du Beethoven, du Mozart, du Verdi, ça lave l'esprit. Et au Kosovo, d'ailleurs, j'étais parti avec quelques partitions. Et donc, je suis resté pour chanter. Puis j'ai rencontré du monde. Du monde E.
Du coup, t'es pas reparti tout de suite.
Donc, du coup, je pense pas repartir tout de suite. Hein. Là, je travaille une semaine sur deux. Enfin, je pars 5 jours en camion, en déplacement. Je fais de l'international. Donc, je bouge. Je vois du pays. Et puis, ensuite, j'en reviens pour 9 jours. Où là, je chante.
Chauffeur routier une semaine et chanteur l'autre, Jean-Yves, l'humanitaire humaniste, le baroudeur, s'est maintenant posé à Dieppe. Peut-être repartira-t-il un jour pour une nouvelle mission. En tout cas, les Kosovars ont apprécié sa compagnie et j'espère que vous aussi. Je vous rappelle l'adresse net Bruit de Fond, c'est www.bruitdefond.free.fr, www.bruitdefond.fr. Au singulier, en minuscule et tout attaché, .free.fr. Vous y trouverez les émissions en ligne et toutes les références des textes et des musiques. Recherches et mises en voix, Alice Deshaies. Relations, invités, Michael Frébourg. Montage et réalisation, Thomas Capron. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut! The top of 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 the top of